Cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe, le 27 octobre l'an 2000 à Saint-Jodard.
Dans la pensée d'Aristote et la philosophie d'Aristote, Aristote distingue bien l'attitude métaphysique du jugement d'existence, ce qui lui permet de parler d'une science de l'être en tant qu'être, du toon eon, de ce qui est en tant qu'il est. Et il distingue bien l'attitude réflexive de l'intelligence. Mais son attitude critique n'est pas séparée d'une façon distincte d'une partie de la philosophie qui serait la critique. Tout en manœuvrant, en avançant dans sa métaphysique, dans sa philosophie première, Aristote constamment critique. Le livre Zeta sur la substance, de fait, les premiers chapitres jusqu'au dernier, sauf le dernier, l'attitude critique est constamment mélangée. Ce qui fait que ce n'est pas commode à comprendre. Et c'est pour cela que si peu arrive vraiment à comprendre ce que représente la métaphysique d'Aristote. Mais depuis Kant, et peut-être même Descartes, on est obligé de montrer que l'attitude critique n'est pas première, que la philosophie s'appuie sur la vie naturelle de l'intelligence et qu'il y a un aspect critique qu'on peut développer et qu'on doit développer ensuite pour lui-même, pour qu'on comprenne mieux l'attitude philosophique d'Aristote. Et c'est ce que fait la critique. La critique n'aide pas positivement la métaphysique. Je ne pars pas d'un principe critique, mais il permet à notre intelligence d'être plus consciente de ce qu'elle fait. C'est la conscience réflexive de l'intelligence que la critique nous donne. Nous avions vu la dernière fois la différence entre l'universel et le singulier et la diversité d'un universel formel qui ne rejoint plus le singulier. Et l'universel mathématique n'a pas besoin de rejoindre toujours le singulier. Il est pris pour lui-même. Tandis que l'universel de la philosophie est toujours lié au singulier. Alors, c'est ici que se pose d'où vient l'universel, d'où vient ce jugement particulier. Le langage me montre bien qu'il y a deux aspects distincts. Deux actes d'intelligence distincts. Je connais ceci. Je me souviens, à Fribourg, mes étudiants venaient constamment me voir en disant « Nous avons votre cours et puis nous avons après notre cours. Vous dites ceci est et distinct de ceci. On nous dit dans le cours suivant, ceci est, et ceci, c'est la même chose. Alors, ils étaient un peu agacés de voir cette différence des deux cours. C'était deux professeurs distincts. Je ne faisais pas les deux cours. Alors, ils m'ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas unir ces deux professeurs, faire devant nous un cours, justifier leur position? C'était très osé de leur part de demander ça, mais c'était d'autre part leur droit. Nous avons deux professeurs. L'un dit ceci et ceci est, c'est la même chose. L'autre qui nous dit ceci et ceci est, ce n'est pas la même chose. Il y a deux actes d'intelligence différents. Alors on a eu, en effet, c'est le professeur Kuhn, pas Kuhn le théologien, mais le petit cousin de l'autre Kuhn. On a eu un cours à deux, il était d'accord, moi j'étais d'accord. Il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de danger qu'on suspecte de, que j'ai un poignard, que j'ai un poignard. On a discuté et c'était très intéressant de bien comprendre les deux positions. Husserl dit explicitement que dans la philologie, il y a l'upoké qui est nécessaire, et l'upoké, c'est la mise entre parenthèses de « et ». Je mets entre parenthèses l'être que je saisis par le jugement d'existence. Et donc, si je prends la loi de l'upoké, ceci et ceci est, l'upoké joue par rapport à est, et j'ai ceci. Et pratiquement, on en revenait à ça. Il y avait cet upoké d'Husserl qui jouait. Alors je dis, n'oubliez pas qu'Husserl a été d'abord un matheux. Il a fait sa thèse en mathématiques. Je ne l'ai pas lu, mais je connais des personnes mathématiques qui l'ont lu. Pas de thèse mathématique. Et puis, des mathématiques, il a poussé. Alors, on revient toujours à cette position très intéressante de Platon et d'Aristote. Pour Platon, les mathématiques sont un pas vers la philosophie première. Il faut passer par les mathématiques. Pour Aristote, on n'a pas besoin de passer par les mathématiques. Notre intelligence n'est pas naturellement mathématique. Notre intelligence peut s'orienter vers les mathématiques. Mais en s'orientant vers les mathématiques, elle se coupe de l'être. Et Husserl a raison, on met entre parenthèses l'être. Alors on devrait appeler une métamathématique. La phénoménologie est une métamathématique. Et non pas une métaphysique. Parce que le jugement d'existence existe en métaphysique. Il est en métaphysique. Il est présent. Et c'est pour ça qu'Aristote dit on n'a pas besoin des mathématiques. Vous voyez, c'est intéressant. Parce que les mathématiques sont une forme de pensée. Aristote le dit. Et c'est vrai, ça. Une forme de pensée qui nous prend très fortement. Les mathématiques représentent une science où la certitude, il ne dit pas l'évidence, où la certitude est la plus forte. On a en mathématiques une certitude plus forte que dans aucune autre science. Au point de vue certitude, les mathématiques l'emportent. Mais est-ce qu'on cherche la vérité ou la certitude ? La question est là. Les mathématiques atteignent une certaine vérité, mais il y a une autre vérité. Il n'y a pas que les mathématiques. Il y a une autre vérité. Alors c'est intéressant de voir que cette position entre Aristote et Platon par rapport aux mathématiques revient aujourd'hui avec Husserl. Est-ce que les mathématiques nous aident à entrer en philosophie première ou pas? Est-ce que j'accepte au plan philosophique que affirmer ceci est distinct de simplement dire ceci? Dans l'ordre pratique, hein, vous pouvez mettre à la place de ceci carotte. Vous avez tout à fait le droit. Les carottes sont ceci. Alors, est-ce que c'est différent des carottes qui existent ou des carottes? Au point de vue pratique, hein, au marché, je veux des carottes qui existent. Hein. C'est sûr. L'existence joue au niveau pratique, toujours. Alors, est-ce que la métaphysique et la philosophie se coupent du point de vue de notre expérience de tous les jours? Ou est-ce qu'au contraire, cette expérience de tous les jours est-elle quelque chose auquel je reviens tout le temps? Le point de vue de l'existence de la réalité. C'est primordial, hein, parce que ça touche au point de départ. Est-ce que le point de départ de la métaphysique présuppose les mathématiques, ou est-ce que le point de départ de la métaphysique présuppose, et non pas les mathématiques, qui sont déjà une certaine pensée, mais qui fait revenir à une pensée, celle de tous les jours? Je réfléchis sur mon rapport avec la réalité, avec moi-même, avec mes amis. Donc, dans le langage, puisque le langage exprime ma pensée, dans le langage, autre est dire ceci, autre de dire ceci est. Je réfléchis sur ce langage. Je vois que ceci est n'est pas simple. Ça implique déjà un nom et un verbe. Et je suis tellement habitué que je ne fais pas attention. Un nom et un verbe. Il y a donc antérieurement au jugement « ceci est », il y a donc une connaissance à l'égard du « ceci ». Ce n'est pas la même connaissance « ceci et ceci est ». Et je peux regarder mon langage. Je m'aperçois que toujours, entre le nom et le verbe, je fais cette différence. Le verbe est attribué au nom. Je peux prendre l'infinitif du verbe et l'infinitif du verbe devient un nom. Je peux dire l'être par lui-même est éternel. Je ne dis pas que c'est vrai, hein. L'être par lui-même est éternel. L'être et corruptible. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que ça a un sens? L'être, par lui-même, est corruptible. Je dois dire, il y a des êtres qui sont corruptibles. Mais il peut y avoir des êtres qui ne sont pas corruptibles. Est-ce que corruptible s'attribue essentiellement à l'être? Oui, je réfléchis sur des réalités très simples, hein, des réalités de notre langage. Est-ce que je peux dire l'homme est naturellement corruptible? Est-ce que l'homme est corruptible par tout ce qu'il est? Ou est-ce que je peux dire l'homme, à cause de son corps, est corruptible? Il y a en lui quelque chose qui n'est pas corruptible. Vous voyez, là, j'arrive toujours à discerner la différence entre le nom et le verbe. Cette distinction du nom et du verbe existe tout le temps dans toutes les langues. Existe différemment. On emploie le verbe de façon différente, mais ça existe toujours. Alors, qu'est-ce que ça correspond? Je suis au point de vue critique. Hein. Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait fondamental de mon intelligence? Ma manière de connaître le verbe et le nom. La logique me montrera et me donnera les renseignements sur la manière de se servir du nom et du verbe. Il me montrera quand, dans telle circonstance, le verbe attribue au nom et quelque chose qui est réel. Ou, au fond, quelque chose qui n'est pas réel. Je fais une distinction entre la logique et la critique. La critique va plus loin. Elle essaie de saisir par le langage non plus l'harmonie entre le nom et le verbe, mais elle saisit la manière dont je peux me servir du verbe et de toute espèce d'attribut. Et parmi les verbes, il y en a un qui est particulièrement important, le verbe être. C'est curieux. Pierre marche. Pierre est marchand. Tiens, je vois que les verbes en dehors du verbe être impliquent le verbe être. Pierre dort. Pierre est dormant. Il y a donc quelque chose de très particulier dans l'affirmation « ceci est ». Est-ce que je ne suis pas en face de quelque chose de radicalement simple et premier? Est-ce que cette proposition « ceci est » n'exprime-t-elle pas une activité de mon intelligence radicale? Puisque je la retrouve dans les autres affirmations du nom et du verbe. Alors, je vais étudier cette affirmation, ceci est. Ça m'intéresse. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que je pense quand je dis « ceci est ». Normalement, quand je parle, je pense. Je pense à ce que je dis. Il y a des gens qui ne pensent pas à ce qu'ils disent, hein, mais on les prend au tournant. Normalement, ma parole exprime ma pensée. Je sais que les théories différentes entre les rapports, entre la pensée et la parole. J'essaie de revenir à ce qu'il y a de tout à fait simple, tout à fait premier dans mon langage. Ceci est. Ça correspond à deux actes d'intelligence. L'un absolument simple, qui peut s'abstraire du verbe, ceci. Je peux très bien dire ceci. Et puis je peux dire ceci est. Alors, ne suis-je pas en présence là du caractère foncier de mon intelligence ? Mon intelligence, d'abord, appréhende ceci. Et ceci a un caractère universel. Puisque je peux dire ceci, c'est homme, c'est carotte, c'est table, c'est tout ce que vous voulez. C'est ceci. Et à ce caractère de ne pas être universel. Ceci est, j'indique une réalité singulière. Je ne peux pas dire ceci est au point de vue universel, parce que l'universel n'existe pas. Il existe dans ma pensée, mais il se passe dans la réalité. Et je suis en face de choses très élémentaires, mais très importantes, radicales, qu'on retrouve tout le temps. Le nom et le verbe. Le nom qui peut être universel, il a ce privilège de pouvoir quitter le singulier et de rassembler quelque chose qui se trouve en un temps en une quantité de singuliers. Quand je dis table, oui, il y a cette table ici, cette table-là, cette table existante, mais il y en a une autre. Il y a une table que je dis du style 15e siècle. C'est pas ça. Ça, c'est pas le style 15e siècle. C'est le style série. Il n'y a pas de style particulier pour ça. Non. C'est commode. Il y a une bonne taille, oui, à peu près. Quelqu'un de très grand trouve qu'elle est petite. Et je trouve que pour moi c'est bien, je peux m'aider. Elle est faite à ma dimension, à peu près. On ne l'a pas choisie pour ça. On l'a choisie parce qu'elle était, ça allait à peu près. Avec une harmonie avec l'ensemble. On va mettre un grand immeuble énorme. Plein. Bon, table est universelle. Ceci est universel. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une première opération de l'intelligence capable de saisir les noms, capable de saisir les réalités, les déterminations. Aristote parlera des quiddités. La nature. La nature intelligible, table, chaise, tabouret. Tout ça est distinct. Alors, il y a le nom universel, ça qui m'intéresse. Les noms peuvent être universels. Et l'intelligence touche cette réalité et elle peut dire cette table. Tiens, quand elle ajoute ça, elle veut montrer la table individuelle, cette table particulière, cette table singulière et la table universelle. On avait, nous, dominicains, un meuble universel dans chaque cellule, un meuble universel. Alors, retrouver le même meuble dans toutes les cellules, c'était un meuble universel. Il était commode, parce qu'il s'en fout tout. C'est curieux. L'intelligence humaine s'éveille dans l'universel. Ça, c'est curieux. Elle quitte le singulier pour s'éveiller, apparaître dans l'universel. L'universel, je ne le touche plus. L'universel, je ne le vois pas. Vous pouvez imaginer, mais vous ne le voyez pas. L'universel. Saint Thomas dira, l'universel, je prends ça parce que c'est très bon dans Saint Thomas, quand il dit, l'universel, unum ex multis, in multa, ad multa. L'universel est une relation de quelque chose, d'une détermination, d'une quidité, de la nature au singulier. Alors, vous avez, pour préciser ce que l'universel, vous avez ex, in, ad. C'est très riche. Hein. L'universel provient du singulier, l'universel retourne au singulier, l'universel est dans le singulier. Ex, in, ad. Ça, c'est l'avantage du latin, vous voyez ? C'est que c'est très précis. Vous pouvez dire, l'universel provient des singuliers. Juste avant d'arriver à l'universel, le gosse, ce passage de papa, la maman présente le petit papa. Et tous les hommes sont papa. Puis au bout d'un certain temps, j'ai demandé une fois à un psychanalyste s'il avait précisé à quel moment on passait de papa à homme. Il m'a regardé. Il dit, j'ai jamais pensé. C'est pourtant très important. Parce que toute notre vie intellectuelle, c'est ça, c'est de passer à papa à homme. Le petit gosse est passé de papa à homme. Oui. On est passé du singulier, papa je le touche, homme je le touche pas. La première fois que vous avez dit homme, je ne m'en souvenais pas, hein, vous avez quitté le singulier et vous êtes passé à papa, à homme. Mon intelligence, pour progresser, passe du singulier que je touche, que je vois, que je sens, que je mange. Si j'étais un chien, je mordirais le bois. Hein. Je sais que, auparavant, le bois, je l'ai peut-être fait quand j'étais tout gosse. J'ai fait comme le chien, je mordillais un morceau de bois. On lui donne des sucettes, hein, et il mordit. Hein. Il est chien, première connaissance. Et puis on est passé à homme. On n'a pas conscience. C'est pour ça que le psychanalyste, je voulais qu'il avoue qu'il n'ait pas conscience. Tiens, je n'ai pas conscience à quel moment je suis passé de papa à homme. j'ai appris le langage. Le langage m'a aidé. J'ai appris le langage. Et la première fois qu'un gosse, c'était en gare du Creusot, la première fois qu'on a vu le TGV, hein, le Creusot, il y avait une maman qui n'était pas loin de moi et qui avait un gosse. Alors, il regardait le gosse, il dit, maman, qu'est-ce que c'est ? Parce que la mère, j'ai vu sur Mandig, c'était un train nouveau, mais qu'est-ce que c'est ? La mère répond, TGV. Ça, c'est une réponse admirable, tout à fait maternelle. TGV. Mais qu'est-ce que c'est que TGV, maman ? Il l'a poussé jusqu'au bout, pour que justement, la mère dit tout simplement, c'est un train à forme nouvelle. Et qui va beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on dit TGV. Vous voyez, la plupart du temps, on se sert de mots. On quitte l'expérience, alors qu'en réalité, l'expérience me montre les réalités singulières. Et puis, à partir des réalités, je suis passé à un mot abstrait. Et on appelle ça, saint Thomas appelle ça, l'abstraction universelle. Je suis passé d'un mot singulier à ça. La première opération de mon intelligence, c'est donc appréhender la quiddité. Je vous dis exprès le mot savant, quiddité, un mot qu'Aristote a inventé, le totinenai. Le totinenai, c'est traduit en latin quiddité. J'aime beaucoup mieux le grec. Hein. Le totinenai. Le enai, ce qui est tienai. Totinenai. Le tien, ce qui est tien, ça veut dire ce qui se retrouve partout lorsque là, on a le Toinai. L'universel est présent, l'homme est présent dans Pierre, Jacques, Jean, Papa. En critique, la première chose que je fais, c'est de voir la naissance de l'universel. L'apparition de l'universel. Quitter le singulier, j'abstrais. J'abstrais de toutes les notes singulières pour avoir l'essence de la chose. L'essence, la quiddité, l'intelligibilité de la chose. Le singulier a en lui cette intelligibilité, mais l'abstraction montre cette intelligibilité à l'état pur. J'ai abandonné tout ce qui est secondaire, second, singulier et qui ne peut pas être universel. Je ne définis pas l'homme par un caractère singulier en disant l'homme, il a une grosse tête. Non, parce qu'il y a des hommes avec des petites têtes. Donc, je ne peux pas savoir. L'homme, il a du feu, roux. Non, il y a des hommes qui l'ont, mais tout le monde ne l'a pas. L'homme est chevaux, il n'a plus de cheveux. Non, les cheveux poussent. Mais quand ils sont tombés, ils ne repoussent plus. C'est comme les dents. C'est... Chez le petit enfant, il y a les premières dents et les secondes dents. Et quand les secondes tombent, fini. Oh, c'est curieux ces choses-là. Hein. Pourquoi ça ? L'enfant, pourquoi ça ? passage du singulier à l'universel. Et le philosophe va essayer d'expliquer ça. Parce que c'est une induction. C'est la première induction. Je passe du singulier à l'universel. Et cette induction se fait automatiquement, naturellement. Je n'y pense pas. Et puis, il y a l'intelligence qui juge, qui discerne ceci est. L'homme, Pierre, il est. Papa, il est. Mais l'universel n'existe pas. Il existe dans l'intelligence. Il existe dans mon intelligence. Il n'existe pas dans la réalité. Je n'ai jamais voulu montrer l'universel se réalise dans la réalité. Comment est-il l'universel? Comment il est-il? Il est l'universel. Et l'universel, c'est une relation de raison. C'est une relation. C'est pour ça que c'est unum ex, unum in, unum ad. C'est une relation de raison. Et c'est mon intelligence qui fait ça. L'intelligence fabrique des relations de raison qui n'existent pas dans la réalité. Dans la réalité, homme existe dans Pierre. C'est identique. Ah, il y a la relation d'identité. Vous êtes, vous, singulier, en relation avec homme. L'identité. Vous portez en vous cet universel. L'homme. Alors, je vois que le jugement saisit le verbe. Mais saisit le verbe non pas séparément. Je peux saisir le verbe séparément. Je peux saisir le verbe être. Être. J'ai donné à être un caractère substantiel. Un nom. Et normalement, le verbe être, présent, passé, futur. Hein, c'est curieux. Le verbe est toujours dans le temps. Tandis que l'universel est au-dessus du temps. Et mon intelligence, hein, d'une part abstrait, et d'autre part, discerner. Je suis en face de deux types d'intelligence, l'abstraction et le discernement. Krinein, juger, discerner. Et nous avons tous cette expérience-là. Bien, la critique commence par dire l'intelligence humaine est toujours complexe. Il y a mes deux opérations qui sont liées entre elles, qui sont liées entre elles, mais qui peuvent comme deux réalités distinctes qui peuvent s'unir. Quand je fais, de fait, je ne saisis plus le verbe infinitif comme nom, mais que je saisis le verbe dans sa fonction de verbe. Alors, il est relatif au nom, et il donne au nom une qualité très spéciale. Ceci est. Il existe. dans tout ce qu'il est. Il reste toujours le souci, mais il a une qualité spéciale. Il existe. Or, l'exister fait que ceci, quand je dis que ceci est, il est en dehors de moi. Il n'est plus moi. Tandis que ceci, je le possède en moi. Je suis donc en face de deux opérations élémentaires qu'on a nommées appréhension, discernement, jugement. Et toute ma vie intellectuelle se ramène toujours à ces deux opérations. Tout s'édifie sur ces deux opérations.